compagnie de Sarah Manzano. Salut Sarah, comment tu vas?
Oh, ça va très bien. Écoute, Guillaume, tu me fais rougir à chaque fois.
Oh, c'est mon plaisir, c'est mon plaisir. Écoute, Sarah, aujourd'hui, on a quand même une journée d'actualité qui est plutôt chargée. On a plusieurs sujets dont on va vouloir discuter. La COVID-19, c'est sûr, on va être en actualité coronavirale pendant un certain temps. Les cas ne font qu'augmenter au Québec. On se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait bien avoir une aussi grande influence? La réponse pourrait potentiellement se trouver dans les écoles. Donc, on va regarder ça, c'est certain. En économie, on parle entre autres encore de l'affaire Fitzgibbon. On parle d'un projet de faire travailler les Québécois jusqu'à 75 ans. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mal? On va discuter de ça. On va parler également un petit peu d'environnement, de politique. Entre autres, une première personne a été congédiée au Québec en lien avec la loi 21. Donc, on va regarder ça plus en détail. Ça fait beaucoup réagir, surtout dans le Canada anglais. Donc, c'est sûr qu'on va regarder ça. Et on devrait normalement terminer notre émission en parlant de politique municipale. Et en fait, plus que de la politique municipale, on va parler du service de police de la Ville de Québec, des annonces qui ont été faites pour cerner le profilage racial. On sait que après les arrestations brutales, violentes de la semaine dernière, et les autres qui ont circulé à travers des vidéos sur le web, c'est sûr que le service de police avait de l'introspection à faire. Donc, on va voir ce que ça va donner.
Mais attends un peu. Selon eux, il ne faut pas parler de profilage racial, il faut parler d'arrestation systémique.
Oui, effectivement. La différence, elle est très importante. On va le dire avec des gros guillemets quand même. honnêtement, le nouveau ton du chef de police, il est franchement mieux. Il y a vraiment un virage dans le discours. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir en discuter plus en profondeur. Avant toute chose, on va commencer tout de même, comme il se doit, en chansons et en musique. On va aller écouter Parure de filles et on vous revient avec vos actualités coronavirales à 1h dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Je suis allée au resto, collier de perles et talons hauts, parfum Coco Chanel dans une robe en dentelle. J'avais teint mes cheveux roux, rougi mes lèvres et mes joues. Tu n'y as vu que du feu, je jouais très bien le jeu. Je t'ai suivi à la plage, chapeau blanc vert fumé, mes colliers de coquillages dans ma plus belle robe d'été. J'avais teint mes cheveux blancs, bronzé mon corps sous les néons. J'ai l'air d'une fille de Marseille, la peau gorgée de soleil. J'ai mis ma robe à poids, me vois-tu dans tes bras? J'ai mis ma robe à poids pour danser avec toi. Croisé dans mes cours, lunettes rondes, vieux souliers, chandail de tous les jours, dans mes jeans un peu serrés. Tu te fais prendre au jeu de ma nonchalance, mes artifices astucieux amplifient toujours ma chance. Je te retrouve au bar, collier rouge et décolleté, dans ma belle robe noire, parfum de fleurs d'oranger. Puisqu'on n'a pas dansé, je changerai de personnage, une robe plus colorée pour une fille un peu moins sage. J'ai mis ma robe à fleurs, me vois-tu en couleur? J'ai mis ma robe à fleurs pour accrocher ton cœur. Et je pêche à la mouche, je pêche et l'amour, parure de fille à pas à garçon. J'ai l'amour et plus je brille, plus tu mords à l'hameçon. Je suis sortie ce matin m'acheter un café, sans maquillage ni collier, sans canapé à la main. Je t'ai croisée dans la rue et j'ai pensé m'enfuir, mais ton invitation m'a tiré un sourire. C'est en allant au resto qu'on s'est mangé des yeux, je t'ai vu aussitôt tomber amoureux. Je porte une robe à fleurs ou une qu'importe la couleur, j'ai accroché ton cœur.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes toujours à l'écoute d'Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Schiste 94.3. C'est Guillaume Médard qui est avec vous au micro en compagnie de Sarah Manzano. Et on commence directement en actualité coronavirale. Sarah, tu as les chiffres du jour pour nous.
J'ai les chiffres du jour et malheureusement, les chiffres du jour ne se sont pas améliorés. Les nouveaux cas de COVID-19 ont franchi la barre des 2000 au Québec. Donc la tendance a poussé à la hausse par la multiplication rapide des infections chez les non-vaccinés. On rappelle que la majorité des cas se retrouvent chez les 5 à 11 ans, donc les enfants au primaire. La province rapporte en ce vendredi 2013 nouveaux cas ainsi que 6 décès supplémentaires. Les 2013 cas rapportés portent à 1483 la moyenne calculée sur 7 jours, ce qui est assez énorme. La tendance est en hausse, donc, de 42% sur une semaine.
Ouh, c'est vraiment très, très grand. La semaine dernière, je ne sais pas si tu te souviens, mais on parlait d'une hausse de 33%
ben oui.
En une semaine, et je trouvais ça énorme. Mais là, la hausse, elle est encore pire, cette hausse de 43%, au-dessus de 2000 cas de COVID, on n'avait pas vu ça depuis le pic de la deuxième vague en janvier dernier, quand le gouvernement avait décrété qu'il fallait tout condamner, qu'on avait un couvre-feu. C'était à cause de chiffres semblables. Mm-hmm. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu autant de cas de COVID. Mais ce qui est relativement rassurant, c'est que justement, oui, on a 6 décès à déplorer et chaque décès est un décès de trop. Mm-hmm. Mais si on regarde les statistiques, c'est vraiment pas si mal si on compare à l'an dernier à pareille date ou si on regarde simplement les hospitalisations. Les décès, les hospitalisations semblent être sous contrôle. L'an dernier, on parlait de 20, 30 décès par jour. Là, on est à 6 et c'est une grosse journée. Donc, ça a vraiment ça a beaucoup plus un impact que d'autres choses, j'ai l'impression.
C'est certain que ça a un gros impact. Par contre, c'est un peu le silver lining, le bon côté des choses à travers tout ça, c'est que les chiffres nous démontrent à quel point le vaccin fonctionne et le vaccin est essentiel. Parmi les 2013 nouveaux cas, il y en a 1862 qui ont été découverts chez les gens qui avaient reçu aucune dose, en comparaison à seulement 143 cas qui ont été découverts chez des personnes qui ont été vaccinées une à deux fois. Donc, il y a vraiment un fossé énorme entre le nombre de personnes vaccinées et le nombre de personnes pas vaccinées qui ont été testées positives. Puis il faut mentionner que la vaccination des 5 à 11 ans se poursuit, donc ça va sûrement continuer là, de diminuer à ce niveau-là.
Oui, effectivement. Puis en fait, la règle des 80-20 s'applique ici parce qu'on a un peu moins de 20% de la population du Québec qui n'est pas vaccinée. Toute tranche d'âge confondue. Mm-hmm. Et on voit ici que c'est au-dessus de 80% de nos cas qui sont dans cette tranche de moins de 20% de la population. Il y a un débalancement complet. C'est sûr, comme tu le disais, effectivement, les 5 à 11 ans, la vaccination des 5 à 11 ans, ça va donner quelque chose de vraiment très chouette en augmentant le taux de vaccination. Et dans la capitale nationale, dans la grande région de Québec, 60% des 5 à 11 ans sont vaccinés ou ont un rendez-vous, selon Pierre-Paul Biron du Journal de Québec. Donc, 60% des 5 à 11 ans ont reçu une première dose de vaccin ou auront reçu cette première dose avant le 21 décembre,
oui.
Ce qui est dans 10 jours essentiellement. C'est une excellente nouvelle, vraiment.
Ben oui.
Ça va très, très bien, ce taux de vaccination-là, ce rythme de vaccination-là. Pour la responsable de la vaccination sur le territoire de la capitale nationale, Madame McKinnon, le but de la campagne, c'était d'atteindre ce 60 % avant Noël, eh bien, cet objectif, il est atteint, il sera atteint avec quelques jours d'avance. Donc, c'est une réussite. Et on invite les gens à continuer à prendre rendez-vous autant dans les cliniques de vaccination que dans les écoles. Donc, si vous avez de la parenté qui a entre 5 et 11 ans, qui ne s'est pas encore fait vacciner, vous pouvez même les accompagner, aller avec eux. Les photos qu'on a dans le Journal de Québec sont quand même vraiment très, très mignonnes. On voit un jeune garçon qui est accompagné parce qu'on présume qu'il est sa grand-mère qui lui dit de regarder dans ses yeux pendant qu'il se fait piquer. C'est quand même mignon, c'est quand même chouette. On sait qu'il y a plusieurs efforts qui ont été faits par les équipes de vaccination pour rendre ça le plus agréable possible. Donc, c'est sûr que si jamais vous avez de la parenté qui est en mesure de se faire vacciner comme ça, allez les accompagner, allez les encourager, vraiment.
C'est sûr que je doute qu'il y ait un grand nombre de personnes qui prennent plaisir à se faire vacciner ou du moins à se rentrer une aiguille dans le bras. Donc, si on peut avoir du support moral ou mental, là, c'est toujours bien apprécié quand on est un petit peu plus craintif face à ce genre de démarche-là.
Oui, effectivement. Et... par contre, même si les 5 à 11 ans, ça va bien, il y a de la place, il y a des gens qui sont là. On voit 60 % de la population vaccinée, de cette population-là qui est vaccinée en moins d'un mois. Du côté de la troisième dose de vaccin, donc chez nos aînés très principalement, c'est plus compliqué d'avoir accès à des rendez-vous. C'est ça que je comprends, Sarah?
En effet, là, il y a plusieurs personnes qui ont eu de la difficulté à prendre des rendez-vous sur Clic Santé. Les dates, en fait, qui leur étaient données étaient bien plus tard qu'après leur date d'admissibilité fixée 6 mois après leur deuxième dose. Donc, il y a des personnes qui étaient, mettons, admissibles à partir de décembre et qui ne pouvaient pas avoir de dose avant janvier, ce qui est quand même assez tard. Il y a aussi, si j'ai bien compris, là, des problèmes au refus de l'AstraZeneca. Dans le fond, ce qui se passait, c'est qu'il y a des personnes qui avaient reçu 2 doses du vaccin d'AstraZeneca qui essayaient de prendre un rendez-vous en ligne là, par le biais de Clic Santé et ça disait qu'ils n'étaient pas encore autorisés à prendre un rendez-vous, que c'était impossible pour eux d'en prendre un. Et lorsqu'ils appelaient par téléphone, c'était vraiment pas une question de plage horaire parce qu'il y en avait beaucoup de disponibles. D'ailleurs, il en reste environ 270 000 d'ici le temps des fêtes de disponibles.
Des plages horaires, des vaccins, des doses de vaccins dans la capitale nationale. Donc, en fait, au Québec, donc oui, il y a de la place pour se faire vacciner. C'est ça que je comprends.
Il y a de la place. C'est vraiment juste un bug au niveau du Clic Santé. On comprend pas pourquoi AstraZeneca, ils peuvent pas prendre le rendez-vous en ligne sur Clic Santé, même si le MSSS assure qu'ils peuvent le prendre. Il y a quand même eu plusieurs personnes qui ont eu des bugs à ce niveau-là. Si jamais vous rencontrez un bug, n'hésitez pas à appeler. Les personnes qui ont appelé se sont fait donner un rendez-vous quasi immédiat, dans certains cas, parfois même le lendemain même de l'appel. Et les téléphonistes là, sont super aidants puis ils vont pouvoir vous guider là, à travers la démarche.
Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle quand même, au finalement, que c'est pas des problèmes logistiques, c'est vraiment un bug informatique. La technologie, c'est bien jusqu'à ce que ça plante.
C'est tellement compliqué, la technologie.
Merci pour cette imitation de toutes les vieilles personnes. on va continuer en actualité coronavirale. Parce qu'on a un article de La Presse ce matin qui nous informe que, oui, les cas de COVID-19 sont particulièrement concentrés chez les personnes qui n'ont pas été vaccinées, mais au Québec, encore plus dans les écoles. Et c'est ce qui explique, entre autres, le fait qu'il y ait présentement beaucoup plus de cas au Québec qu'en Ontario. Oui. Sarah, tu as lu cet article-là ce matin. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce grand nombre de cas dans les écoles? Parce que tu me disais quelque chose comme 19 000 cas au total dans les écoles au Québec.
C'est assez choquant. Là. Depuis le début de la pandémie, on a recensé 19 627 cas dans les écoles québécoises. Et je dis seulement avec des guillemets, on s'entend, 9 111 dans les établissements ontariens. Donc, c'est quand même très marquant là, comme différence entre les deux. Il y a plusieurs hypothèses qui qui explique ça. On parle de, d'absence d'échangeurs d'air dans les classes au Québec. On a beaucoup moins accès à ce genre de technologie-là, d'installation dans les écoles. Donc, ça peut être plus propice à propager le virus. On parle aussi d'une meilleure ventilation dans les classes. Ontario, ils sont plus adaptés à ce niveau-là pour les installations. Au Québec, ça laisse un petit peu plus à désirer. Il y a toute une question aussi que le Québec a été touché par le virus bien avant le reste du Canada. Donc, on a une certaine avance là-dessus. Il y a des experts qui disent que, selon eux, l'Ontario va arriver à une situation similaire à la nôtre d'ici 2 à 3 semaines potentiellement. Ça reste à voir si ça va vraiment suivre cette tendance-là. Donc, tu sais, c'est vraiment un petit peu un mélange de tous ces facteurs-là qui viennent créer un ensemble d'hypothèses là, sur pourquoi on a plus de cas à Québec comparé en Ontario.
Oui, et ça, c'est particulièrement choquant quand tu te rappelles que l'Ontario, c'est 1,5 fois la population du Québec.
Ben oui.
Donc, le fait qu'on ait 10 000 cas de plus dans nos écoles alors qu'ils ont... 1,5 fois plus d'élèves dans leurs écoles, et ils ont dû faire quelque chose de mieux que nous autres. Il a dû avoir quelque chose qui s'est mieux passé de ce côté-là qu'ici. Les échangeurs d'air, ça peut être une piste de solution. On se souvient que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, avait été vivement critiqué par les oppositions sur ce dossier-là.
Oui, non, c'est certain. Il y avait eu beaucoup de critiques à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, là, ben, on en parlait tantôt hors onde, toi puis moi, Guillaume. Les installations sont bien plus appropriées en Ontario, mais aussi le fait que nous, au Québec, en ce moment, la majorité de nos cas actifs sont dans les écoles versus en Ontario. Tu m'avais dit que la majorité... Ben, en fait, que leurs cas sont plus répartis dans différentes segmentations de population. Donc, c'est un petit peu plus séparé versus nous. C'est vraiment concentré dans un secteur.
Oui, effectivement. On a cette semaine que dans la capitale nationale, on a la moitié des éclosions qui sont dans les écoles, le tiers des cas qui proviennent des écoles. C'est très, très important. C'est un foyer d'éclosion majeur, c'est un foyer de propagation majeur. C'est d'ailleurs pour ça que le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les écoles primaires de la région de Québec. On va voir si d'autres régions vont adopter ce genre de mesures-là à nouveau également. Mais jusqu'à ce que la population des 5 à 11 ans soit suffisamment vaccinée, c'est sûr qu'on va continuer à voir ça au Québec. Parlant de mesures contre la COVID-19, on apprend dans le Soleil, dans le Devoir ce matin, que l'Ontario garderait le passeport vaccinal plus longtemps que prévu. C'est un article de la presse canadienne qui nous apprend que théoriquement, le passeport vaccinal en Ontario devait être levé en janvier, mais il va y avoir des modifications, entre autres à cause des inquiétudes par rapport au scénario que tu mentionnais tout à l'heure, Sarah, dans lequel la situation du Québec devrait se refléter en Ontario d'ici 2-3 semaines. Et donc, le passeport vaccinal, les mesures sanitaires qui devaient être levées en janvier seront maintenant maintenues jusqu'à nouvel ordre. Donc, l'Ontario se prépare à affronter cette cinquième vague de la COVID-19 et se prépare à ce qu'elle fasse mal, essentiellement. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Au Québec, en comparaison, on se rappelle que pour les fêtes, donc à partir du 23 décembre, il sera possible de se réunir à 20 personnes maximum dans une résidence privée. Il n'y aura pas de limite au nombre de parties auxquelles les gens pourront assister durant les fêtes. Donc, il y a quand même des assouplissements qui vont être faits durant les fêtes, et ce, malgré la hausse de cas, c'est ce que nous apprend Elisabeth Fleury du Soleil. Ce n'est pas dans les plans pour l'instant d'annuler les annonces qui ont été faites. On cite le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Sur la hausse de cas, rappelez-vous, je l'ai dit souvent depuis le début, il faut apprendre à vivre avec le virus. On avait dit plus tôt cette semaine que selon les prévisions qu'on avait, il allait y avoir une augmentation des cas. Ce qui est important, c'est de regarder les hospitalisations. Ce matin, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 35 nouvelles personnes qui entrent dans les hôpitaux, une vingtaine qui en sortent. Ça, c'était jeudi. Ça, on aime moins ça parce que là, il va y avoir une dizaine de personnes de plus encore à l'hôpital. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est deux choses. Les cas aujourd'hui, comme des derniers jours, ce sont principalement chez les enfants et les parents de ces enfants-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on vaccine les enfants, donc ça va finir par avoir un effet. Ensuite, je rappellerai que le reste des personnes infectées, c'est souvent les gens qui n'ont pas eu le vaccin. Donc, ça, c'était une citation du ministre Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, au Salon Bleu à l'Assemblée nationale, qui expliquait pourquoi est-ce qu'il continuait ses assouplissements pour les fêtes. On se rappelle que les 20 personnes qui pourront se réunir dans une résidence privée, ce sera 20 personnes vaccinées. Et c'est ça la grande nuance qui est apportée par le ministre. Est-ce que ça va être suffisant pour arrêter la hausse du nombre de cas, arrêter l'hémorragie? C'est vraiment quelque chose qu'on va devoir continuer à suivre, quelque chose qu'on va devoir continuer à voir parce que, honnêtement, moi, j'en ai aucune idée.
Ça reste vraiment à voir. Tu sais, quand ils ont annoncé que les élèves allaient devoir continuer à porter les masques, les parents avaient exprimé beaucoup de fatigue, de frustration, tannés d'être un peu prises dans cette situation-là, les élèves aussi. Donc, je pense que c'est bien jusqu'à un certain point qu'il y ait un assouplissement là, pour les fêtes parce que ça viendrait mettre beaucoup trop de pression, beaucoup trop de fatigue pour beaucoup de Québécois à ce niveau-là. Par contre, c'est en effet très pertinent de la part du ministre de la Santé d'avoir précisé que les rassemblements doivent être faits seulement avec des personnes vaccinées. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'était un article, si je me souviens bien, du Journal de Québec, qui disait comment annoncer à son membre de sa famille qu'il ne peut pas venir à Noël parce qu'il n'est pas vacciné, comment le faire en douceur, comment le faire en légèreté. Et je trouvais ça assez approprié comme article. Donc, si vous ne savez pas comment annoncer la nouvelle à votre membre de la famille qu'il n'est pas le bienvenu à cause qu'il n'est pas ou elle n'est pas vaccinée, peut-être se fier à ça,
c'est pour son bien, c'est pour le protéger parce que on se rappelle que justement les non vaccinés sont tellement plus à risque de contracter la maladie, de contracter des formes graves de la maladie et surtout de répandre cette maladie. Donc, c'est sûr que ça a un impact incroyable. Parlant de non-vaccinés, on a un article de Patrick Bellerose du Journal de Québec qui nous apprend que 458 travailleurs et travailleuses du réseau de la santé ont été suspendus sans solde parce que ils ont refusé de se faire dépister. On se rappelle, plus tôt cet automne, durant la session d'automne, le ministre de la Santé avait voulu mettre en place la vaccination obligatoire, avait dû reculer devant une opposition forte de certains membres du personnel du réseau de la santé. Il avait dû reculer sur cela, mais en contrepartie, il avait imposé le dépistage 3 fois par semaine pour toutes les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Eh bien, là, pour la première fois, on a des gens qui ont refusé de se faire dépister. Et ces 458 personnes-là ont été suspendues sans solde. C'est sûr qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais je pense que le gouvernement ne pouvait plus se permettre de reculer à nouveau sans perdre toute crédibilité sur ce dossier-là.
C'est vraiment un dossier qui est difficile. Là. J'ai l'impression qu'il y a tellement de personnes qui marchent sur des œufs en essayant de trouver un juste milieu pour que ça se règle. C'est assez particulier comme situation.
Oui, effectivement. On a Isabelle Groulx, vice-présidente responsable du secteur santé et sécurité au travail de la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIQ, qui dit que, et on la cite directement, « Le réseau de la santé est sous haute tension et nous avons besoin de tout le monde. Il n'y a aucune raison de refuser de se faire dépister. La protection de la première ligne est impérative. » La FIQ rappelle que la meilleure protection demeure la vaccination combinée à l'ensemble des mesures de protection. Donc, même le syndicat qui représente ces travailleurs, ces travailleuses-là, dit « Ben voyons donc, qu'est-ce que vous avez fait? » Donc, c'est sûr qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui est derrière ces travailleurs, ces travailleuses-là. On va terminer ce dossier actualité coronavirale avec un dossier dont on n'a pas beaucoup parlé cette semaine. On n'en a pas assez parlé, en fait, cette semaine, et c'est celui des enquêtes. Parce qu'on sait qu'il y a l'enquête de la coroner Jeanne Kamel qui a toujours lieu sur les décès dans les CHSLD lors de la première vague de la pandémie, qui ont quand même fait 4000 décès, au-dessus de 4000 décès, ce qui est énorme. C'est le tiers des décès totaux du Québec associé à la pandémie, mais beaucoup d'oppositions, en fait, toutes les oppositions officielles réclament une enquête indépendante sur l'entièreté de la gestion de la pandémie, pas seulement sur ces événements spécifiques-là, parce qu'on sait que Mme Kamel, elle est très, très restreinte dans son mandat présentement. Et là, on a Dominique Anglade qui, dans son bilan de fin de session parlementaire, a fait un lien plutôt touchant avec la mort de ses parents lors du tremblement de terre en Haïti. Et cette enquête-là, Sarah, peux-tu nous expliquer un petit peu ça?
Bien, c'est ça, là, dans le fond, Dominique Anglade disait qu'elle, lorsque ses parents étaient décédés en Haïti suite au tremblement de terre, elle avait reçu un rapport de 6 pages qui expliquait les circonstances autour du décès et que, bien qu'au début, elle avait beaucoup de difficultés à lire ce rapport, une fois qu'elle l'a lu, ça lui a permis un petit peu de faire son deuil, de boucler la boucle, puis d'être un petit peu plus en paix avec le malheureux événement. Et elle aimerait que cette paix d'esprit, permission de enfin faire son deuil de façon appropriée soit donnée aux personnes qui ont perdu des proches dans les CHSLD. Donc, elle dit vraiment que, et on la cite, qu'ils ont besoin de vérité et que cette vérité-là, ces familles-là ne l'ont pas encore aujourd'hui. Donc, elle implore vraiment là, que ces documents-là soient sortis. Il y a d'ailleurs Pascal Bérubé qui invite le premier ministre Legault à rendre accessibles les enregistrements, s'ils existent, des réunions qu'il a tenues avec les chefs d'opposition en 2020. Là, reste à voir s'il va être vraiment ouvert à les rendre publics s'ils existent. Moi, j'aurais tendance à croire que non, là, avec le nombre de documents qui sont supposés être rendus publics ces temps-ci qui ne le sont pas.
Oui, on sait que le gouvernement a un petit peu de misère avec ça présentement. Cette question de transparence, cette question de fiabilité sur le dépôt de documents par rapport à toute cette gestion de la pandémie. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, l'important à se rappeler dans cette histoire-là, c'est que toutes les oppositions à Québec présentement demandent une enquête indépendante sur la gestion de la pandémie, essayer de comprendre pourquoi on a eu autant de cas, pourquoi on a eu autant de morts au Québec, qu'est-ce qui s'est passé. Et un des arguments qui est sorti aujourd'hui, c'était pour pouvoir faire la paix pour les proches de ces victimes-là.
Oui, oui. C'est donc la moindre des choses. Je pense qu'on leur doit ça là, à quelque part.
Oui. Donc, sur cette note un petit peu plus triste, on va prendre une pause publicitaire et musicale et on vous revient tout de suite après avec des nouvelles politiques. Vous écoutez toujours Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission deux en un, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez toujours Un Phare dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Médard qui est au micro avec vous en compagnie de Sarah Manzano. Et on va revenir en actualité politique ici parce que on a un gros dossier qui est tombé hier qui est tombé hier dans les médias anglophones. Ça a pris un certain temps pour traverser le fossé séparant les deux solitudes et maintenant ça fait le tour des médias francophones. On a une enseignante d'une école primaire anglophone de l'Outaouais qui a été réaffectée à un poste sans autorité parce que son hijab contrevenait à la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, qui interdit aux enseignants, aux enseignantes de porter des signes religieux en classe. C'est assez spécial, toute cette histoire-là, entre autres parce que ça se passe dans une communauté anglophone de l'Outaouais, dans une école anglophone qui vient d'une commission scolaire anglophone, qui sont par nature très opposés à la loi 21. Oui. On sait que c'est le English Montreal School Board, la commission scolaire du Montréal anglophone, qui est une des premières à avoir voulu poursuivre le gouvernement pour contester la loi 21 en cours. Et là, c'est la commission scolaire anglophone de l'Outaouais qui a dû réaffecter cette enseignante-là. Donc, on va faire une espèce de petite chronologie. On a une enseignante qui a décidé d'appliquer à un poste d'enseignement.
De remplaçante, là, pour être plus exact, dans une classe.
Oui, un poste d'enseignement dans une classe qui avait besoin d'une nouvelle enseignante après que la dernière ait quitté ses fonctions. Elle mm-hmm. a été embauchée, elle a été assignée à cette classe. On s'est rendu compte qu'elle portait le hijab et on a ensuite réaffecté cette personne-là à d'autres tâches dans l'école et on a mis une autre personne à sa place, ce qui fait que c'est la troisième fois que cette classe-là change d'enseignante, mais essentiellement, on a trouvé un moyen, un tour de passe-passe du côté de du côté de l'école de la commission scolaire pour ne pas avoir à congédier cette dame-là. On mm-hmm. lui a simplement donné d'autres responsabilités. Donc, c'est pas exactement un congédiement.
C'est pas exactement un congédiement. Puis il faut dire aussi que l'enlever de la classe, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Elle est quand même restée environ un mois dans la classe là, avant que ça se passe. Et l'enseignante, elle demeure à cette école en question. Si on cite l'article, elle a été affectée à d'autres tâches qui n'interfèrent pas à l'application de la loi 21. Elle y travaillera notamment sur l'inclusion, selon la commission scolaire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est assez vague.
C'est quand même assez ironique. C'est quand même assez ironique qu'une personne soit exclue de son travail pour ensuite être mise à travailler à sur propos de l'inclusion et de la diversité. Il y a une certaine dose d'ironie là, qui peut-être n'a pas été perdue. Mais c'est sûr que ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir au Parlement à Ottawa parce qu'on se rappelle que plusieurs partis fédéraux et en fait le reste du Canada est très opposé à cette loi, à la loi 21, alors qu'au Québec, on sait que particulièrement dans la population francophone, c'est une loi qui est très, très, très populaire. Donc, on a Pascal Bérubé du Parti québécois qui dit « La loi est pour tout le monde ». Je suis pas mal sûr qu'elle était au courant de la loi. Elle essaye de faire une déclaration en portant un hijab. C'est la loi. Dur Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et sa déclaration, où est-ce qu'il dit qu'elle essaye de faire une déclaration en portant un hijab, c'est en lien avec des propos que cette enseignante-là mm-hmm. avait tenus à un journal d'Ottawa, où est-ce qu'en entrevue, elle avait déclaré que son hijab, selon elle, ce n'est pas un signe religieux, mais une partie de son identité. Et c'est pour ça qu'elle refuserait toujours de l'ôter, malgré la loi 21. Donc, elle savait qu'elle contrevenait à cette loi-là. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un move politique de sa part, un petit peu à la Rosa Parks. Ouais. On peut voir ça comme ça, de la contestation citoyenne de sa part. Mais là, elle a été bougée, elle a été réaffectée à un autre poste. Donc, est-ce que Pascal Bérubé a raison en disant que la loi, c'est la loi, elle devrait s'appliquer à tout le monde de manière égale. Oui, mais il y a quand même plusieurs députés, particulièrement des députés anglophones, à la Chambre des communes qui ont réagi en disant que oui, c'est la loi, mais la loi en elle-même, elle est injuste. On parle entre autres de la députée libérale fédérale Ikra Khalid qui a dit que, et on la cite, « La loi 21 renforce les préjugés systémiques et divise la société canadienne. Notre société multiculturelle défend le droit des personnes de pratiquer leur foi, ce qui inclut de pouvoir porter des symboles de leur identité religieuse. » Donc, au Parti conservateur, même si le chef du parti, Erin O'Toole, a évité les questions des journalistes, une des députées, Kyle Seaback, a brisé les rangs en qualifiant sur Twitter la loi 21 de honte absolue. On a également le chef du NPD, Jack Meeting, qui a dit, et on le cite directement, « Voilà une enseignante dont nous n'avons aucun doute sur sa capacité d'enseigner. Simplement à cause de la façon dont elle s'habille, elle ne peut pas enseigner aux enfants. Tout ce qui ne va pas avec cette loi, elle le met en évidence. C'est une bonne chose que la loi soit combattue en cour. » Ce sont les paroles de Jack Meeting, chef du parti, du nouveau parti démocratique du NPD. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de remous du côté du Parlement canadien quand même, toute cette affaire, alors qu'au Québec, ça a pris un certain temps pour même qu'on en entende parler. Je sais pas, moi, ça me sidère toujours un petit peu de voir ce fossé-là, de voir cette distance-là entre le monde anglophone et le monde francophone au Canada.
Penses-tu qu'il y a une raison pourquoi il y a un aussi grand fossé, si on peut dire idéologique, là, entre les deux cultures?
J'ai eu cette discussion-là une couple de fois, mais je pense que la grande, grande, grande différence, c'est par rapport au fait de voir la religion comme étant un choix ou de voir la religion comme étant une partie de son identité. Et si on dit est-ce que quelqu'un a le droit de... est-ce que quelqu'un devrait professer un choix politique ou religieux, la réponse, c'est plus probablement non. Est-ce que quelqu'un pourrait professer son identité? La réponse est plus probablement oui. Donc, dépendant sous quel angle tu abordes la question, comment est-ce que tu vois le fait de porter un symbole religieux? Tu es soit dans « est-ce que quelqu'un devrait pouvoir avoir ce choix-là » ou « est-ce que quelqu'un pourrait être respecté dans son identité. » Et il y a comme un monde de différence entre ces deux mentalités-là, ces deux visions-là, et ces deux visions complètement différentes de la religion et du lien qu'on a avec la religion qu'on a dans le Canada francophone et dans le Canada anglophone.
C'est vraiment intéressant. T'sais, j'ai aussi l'impression qu'il y a toute une question de percevoir la religion comme quelque chose qui est imposé, qui ne peut pas simplement être vécu. Tu sais, t'as des personnes qui vont avoir une religion particulière, qui vont vivre dans les contextes de cette religion-là au quotidien, mais c'est pas parce qu'eux vivent dans ces contextes-là qu'ils vont imposer ces contextes et ces croyances-là à leurs proches, à leur entourage au quotidien. C'est pas parce qu'un enseignant porte un hijab qui va brainwash toutes les petites filles de la classe à porter un hijab à leur tour là, dans cette classe-là par le fait même. Là.
Non, effectivement. Mais est-ce que un enseignant en histoire du Québec qui a des drapeaux patriotes dans son cours pourrait insuffler la flamme indépendantiste à plusieurs de ses élèves?
Ben,
la réponse, c'est que probablement. En fait, la question, c'est est-ce qu'on fait une différence entre ces deux cas-là, oui ou non? Est-ce qu'il y a un de ces deux cas-là qui est plus acceptable que l'autre? Le fait de porter un hijab et de parler de ses valeurs personnelles ou de faire flotter un drapeau patriote et de parler de ses valeurs personnelles. Lequel des deux est le pire? Comment est-ce qu'on légifère là-dessus? Est-ce qu'on devrait même légiférer là-dessus? C'est ça le gros débat de société. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une partie de notre identité? Donc, Je sais pas. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant en tant que personne qui étudie en politique. Là.
C'est des gros questionnements, des grosses discussions sociopolitiques. Mais on a d'autres sujets. Il faut parler de nos autres articles aussi. On peut pas... Si on pouvait passer une heure à jaser de ça, on le ferait, mais...
Mais oui, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, non. On va quand même continuer. Merci de me rappeler à l'ordre quand même de temps en temps. On va passer à un dossier, rapidement un dossier qu'on suit depuis un certain temps. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, qu'on a appris cette semaine qui était également ministre du baseball.
Eh ben.
dans toute l'histoire autour du financement potentiel d'un nouveau stade de baseball à Montréal par un prêt pardonnable accordé par le gouvernement du Québec. M. Fitzgibbon était également dans l'eau chaude à cause d'une histoire en lien avec Investissement Québec qui aurait donné 10 subventions concordant pas avec les critères du programme dans le cadre duquel elle a donné ces subventions-là. Et la raison pour laquelle ces subventions ont été tout de même données, c'est parce qu'elles ont été personnellement autorisées par le ministre. Et là, on a mon chef Deradji, le député libéral qui est critique en matière d'économie, qui s'est encore levé en chambre à l'Assemblée nationale pour demander le nom de ces 10 entreprises-là, les montants qui ont été donnés, parce que tout ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé grâce à un rapport de la vérificatrice générale qui critique le ministre de l'Économie. Et M. Fitzgibbon a répondu encore une fois qu'il ne fallait pas, selon lui, briser le lien de confiance entre le ministère de l'Économie et ces entreprises-là, et donc qu'il n'allait rien révéler du tout. Ce n'était pas dans ses plans, ni à court, moyen, ni à long terme, de révéler qu'est-ce qui s'était passé dans ce dossier-là. Ce qui... opinion personnelle, mais ce qui rend pas tout ça moins louche?
Moi, je trouve que ça fait juste empirer la situation. Ça rend tout ça plus shady. Moi, je commence à m'imaginer des gros scénarios là, de Fitzgibbon dans un local de mafia qui fait des deals avec des grosses entreprises. T'sais. Ça va peut-être pas jusque-là, mais quand même, là, on se souvient d'ailleurs que la semaine dernière, Fitzgibbon avait révélé qu'il s'était servi d'un guide de gestion interne, des documents secrets avec des critères supplémentaires, et c'est pour ça, entre autres, que ça avait été accepté. Mais on ne sait pas c'est quoi ces critères-là, puis on le saura probablement jamais.
Ce guide secret est resté secret malgré les demandes de toutes les oppositions. Et il avait également tenté de se défendre en disant que la définition du mot stratégique est très élastique. M. Fitzgibbon, qui est un petit peu dans l'eau chaude dans plusieurs, à plusieurs égards.
Proche de l'eau bouillante, je te dirais.
Oui, effectivement. On va continuer à... on va continuer à parler de politique, mais indirectement, parce que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, refuse encore de... le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait une annonce par rapport au dossier de l'eau potable et des communautés autochtones. Selon lui, le travail se poursuit. On sait que c'est pas encore chose faite, tout ça.
Non, c'est vraiment pas chose faite, là. À la base, les libéraux ont contribué à lever 120 avis à long terme sur la qualité de l'eau potable. C'est ce que dit le premier ministre. Le site web du gouvernement rapporte que 42 avis de ce type sont toujours en place dans 30 communautés différentes, ce qui est quand même beaucoup. On cite Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui dit « Je conviens qu'il est acceptable que certaines communautés attendent toujours, qu'il est inacceptable que certaines communautés attendent toujours. Je peux donc vous assurer que partout où il y a un avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme, il y a une équipe de projet et un plan d'action en place pour le résoudre. Là, quel est ce plan d'action? On n'a pas plus de détails, malheureusement, à ce niveau-là. Pour ce qui était, on s'en souvient, là, de la ministre des Services autochtones, Patty Hadjou, elle avait déclaré dans les dernières semaines qu'elle était réticente à fixer une nouvelle date limite parce qu'on pourrait encore décevoir au niveau de si on se met un deadline de ne pas être capable d'y arriver. Donc, on préférait faire un travail qui était bien exécuté sans contrainte de temps qu'un travail botché avec une contrainte de temps.
Oui, donc mais c'est quand même assez spécial de dire on ne va pas se donner de deadline parce qu'on sait qu'on va la décevoir. ça sonne un petit peu comme une admission d'échec. essentiellement de la part du gouvernement. En termes de qualité de l'eau, oui, il y a des avis d'ébullition dans plusieurs communautés autochtones, mais au Québec, particulièrement dans l'est du Québec, dans la péninsule gaspésienne, on a d'autres inquiétudes par rapport à des puits de forage qui pourraient ne pas avoir été décontaminés. C'est ce qu'on apprend ce matin, Sarah?
Ben oui, moi, personnellement, j'étais assez choquée en lisant cette nouvelle-là. C'est le gouvernement Legault qui refuse de produire et de rendre public un inventaire de la qualité des eaux souterraines pour l'ensemble des puits pétroliers et gaziers forés au Québec au cours des 20 dernières années. C'est beaucoup, là, les 20 dernières années, on ne veut pas divulguer aucune information à ce niveau-là. Il y a le Parti québécois qui a présenté une motion formulant cette requête en chambre. Ça a été appuyé par d'autres partis d'opposition, mais c'est vraiment la CAQ qui refuse d'en débattre, même pas, ils veulent même pas débattre l'idée de peut-être sortir ces documents-là. Selon le PQ, selon Québec solidaire, il y a un danger pour la qualité de l'eau des citoyens qui vivent à proximité de ces puits-là. On rappelle qu'il y a plusieurs puits qui sont encore, pour être exact, des dizaines de milliers de puits de pétrole qui sont abandonnés, toujours en attente de décontamination. La population pourrait être prise avec des émanations toxiques. Il peut y avoir des éruptions spontanées non contrôlées. Donc, ça peut être très dangereux par moment. Là, c'est un petit peu mitigé au niveau de est-ce qu'il y a vraiment un danger, est-ce qu'il n'y en a pas vraiment. Il y a des groupes qui disent... En fait, il y a... L'AEQ qui rappelle qu'il y a une étude environnementale stratégique du gouvernement qui estimait qu'il n'y avait aucune contamination au Québec, alors que, ben c'est ça, il y a des groupes écologistes qui rappellent justement que des dizaines de puits sont abandonnés et que, plutôt, ça représente une menace. Donc, c'est assez... Il y a une grosse contradiction des deux bords. Et encore une fois, c'est des documents qui ne veulent pas être dévoilés et qui peuvent laisser sous-entendre une certaine shadiness. C'est pourquoi ça ne veut pas être dévoilé, pourquoi il y a une raison à ne pas les dévoiler. Ça reste assez abstrait, tout ça.
Oui, donc on va continuer à regarder ça avec quand même une très, très grande attention. Un autre dossier qu'on a suivi avec une grande attention pour vous, c'est le dossier du service de police de la ville de Québec. On se déplace vraiment chez nous, ici même, sur le territoire de la ville de Québec, parce que on se rappelle que, pas la fin de semaine dernière, l'autre d'avant, il y a eu deux arrestations fort musclé. On pourrait même parler de brutalité policière effectuée par la même escouade. Dans le restaurant Portofino à Sainte-Foy, l'autre en bordure de la Grande Allée, dans le coin du Dagobert. Et c'est cette deuxième qui a été particulièrement médiatisée parce que ce sont des jeunes issus de la diversité culturelle. Ce sont des jeunes noirs qui ont été attaqués par la police. On voit de la neige qui est lancée au visage à coups de botte. On voit une jeune dame se faire traîner par les cheveux dans la neige puis se faire mettre la tête au sol avec un genou. Des images qui ressemble beaucoup à celle de George Floyd. On a eu, après plusieurs tergiversations, une ouverture d'une enquête au Bureau des enquêtes indépendantes.
Ce qui est vraiment une bonne chose, parce qu'au départ, c'était le service de police de la ville de Québec qui faisait l'enquête. Et on voulait une enquête indépendante et ça a fini par être fait.
Oui, effectivement, parce que le service de police de la ville de Québec qui enquête sur lui-même, c'est toujours... Il y a toujours un petit peu... petit problème de conflit d'intérêts et de tension à l'interne. Donc là, ça a été confié au Bureau des enquêtes indépendantes. Mais là, on a le chef du service de police de la Ville de Québec qui s'est engagé à mieux outiller ses troupes pour éliminer les biais inconscients, notamment. C'est ce que nous apprend, entre autres, Judith Desmeules dans Le Soleil. On a également Irena Florence Harris, experte conseil à la Ville de Québec, qui a été appelée en renfort et on la cite directement. « Notre cerveau fait des raccourcis pour comprendre le monde. On en a tous, on n'a pas à se sentir mal. Il a des biais positifs, d'autres sont négatifs. Il faut être conscient qu'on en a parce qu'on peut travailler à les réduire et même les éliminer. Mm-hmm. Il faut travailler à les neutraliser. Plus on connaît les autres, plus on va réduire nos biais inconscients. Ils peuvent générer toutes sortes de choses. On peut penser qu'une personne grosse est lâche. Ce n'est pas tout lié au racisme. Il y a l'âgisme, l'homophobie, les personnes autochtones. On discrimine pour plusieurs raisons. Il faut tous les éliminer. Ce sont des outils qu'on veut donner à nos policiers pour qu'ils puissent interagir avec la diversité et être équitables envers toutes les personnes. Donc, on parlait plutôt dans l'émission que, en fait, on l'a mentionné, le service de police de la ville de Québec n'a toujours pas reconnu qu'il y avait du racisme systémique, de la discrimination systémique en son sein. Eh bien, là, même s'il l'a pas dit avec des mots, probablement pour des considérations politiques essentiellement, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'ôter, de briser ce racisme systémique, de penser autrement, de comprendre ses propres préjugés et d'agir dessus. Si c'est pas ça, briser le racisme systémique, honnêtement...
Je sais pas, ça peut être quoi.
Voilà. On est très, très d'accord là-dessus. Donc... c'est sûr que ça devrait, on espère, avoir une influence sur le comportement de la police de Québec. Selon le chef de police, Denis Turcotte, des réflexions concernant ce plan étaient déjà entamées, mais les événements de la semaine dernière nous incitent à aller plus loin. Donc, le service de police avait déjà commencé à réfléchir à ça, mais ils l'ont vraiment juste mis en place de manière accélérée, de manière intensive. Et pour ce qui est de l'unité GRIP, qui est l'unité spécialisée, qui est impliquée dans la plupart des incidents violents qui ont été rapportés dans les médias, cette unité-là va être remise en question. On va garder, mais on va peut-être redéfinir son rôle, on va peut-être définir son mandat, on va également redéfinir les personnes qui en font partie.
Oui, mais ça, c'est faire la révision du mandat et de ce groupe d'intervention-là. C'est juste une partie du plan et des objectifs du SPVQ. Là, parmi les objectifs du plan du SPVQ, on mentionne entre autres maintenir et bonifier la confiance de la population envers le service de police, mettre en place dans un processus d'amélioration continue des mesures exceptionnelles afin de finaliser les enquêtes et assurer des suivis, et bonifier un plan d'action en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Il y avait des mentions de peut-être engager plus des personnes issues de la communauté culturelle dans le corps policier. Par contre, faire ça, ce n'est pas nécessairement la réponse à tout. Il peut y avoir des préjugés, même envers sa propre communauté auprès de ces personnes-là. Il peut y avoir du racisme intériorisé. Il peut y avoir une pression à se conformer aux visions des autres. Donc, ça peut être un pas vers la bonne direction, mais ça ne peut pas être la solution unique et seule.
Non. Par contre, on peut se rappeler qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire au niveau de la police de Québec, qui a sur ses 700 policiers, on le rappelle, 12 autochtones et un total de 0 noir.
Ah!
Fait que oui, ils peuvent quand même en embaucher un petit peu plus.
Ça serait le fun.
Ça serait le fun. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous pendant toute cette session, pas juste cette émission. Ça a vraiment été un grand plaisir.
Mais ça fut un grand plaisir aussi. J'espère pouvoir revenir à la session d'hiver.
Oui, 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 on a très hâte. Et merci à toi, cher public, d'avoir été fidèle au poste avec nous à chaque midi. C'était Guillaume Bédard pour Un phare dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de CHIZ 94.3.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de CHIZ 94.3.
Passe devant, c'est bien fait! Le tir est là-bas!
Ce vendredi 10 décembre, vos remparts reçoivent les Huskies de Rouyn-Noranda dès 19h en direct du Centre Vidéotron. Ne manquez pas l'avant-match à 18h45 avec Rick Loutier. Rempart contre Husky, ce jeudi, 19h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Béchy.